Seigneur, vous bénisse. Salut au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de commencer, juste vous rappeler pour dimanche, n'est-ce pas? Dimanche, nous avons Sainte-Seine. Le culte commence à 16h. Et mardi, il y a Action de grâce. Et mercredi soir, il y a culte comme d'habitude. Ça va? Il y a une caisse là-bas derrière, je crois que vous le savez. La caisse sera ouverte dimanche, je crois. Je pense, je ne sais pas, c'est Frère Tomo qui s'en occupe. Nous allons prier. Père Céleste, nous venons à toi ce soir avec crainte devant ta majesté. Et nous regardons à ton Fils bien-aimé qui nous a dit que nous pouvions venir nous approcher de toi. Oh, en toute quiétude, que tous nos péchés sont remis. Il a tout pris sur lui et nous le croyons de tout notre cœur. Et nous voulons ce soir te demander d'être parmi nous, de nous parler, de nous réjouir par ta parole. Oh, que notre soirée soit bien remplie. Que tu nous assistes encore ce soir. Que nous puissions apprendre de ta part. Et que nous puissions vraiment avoir les cœurs qui brûlent au-dedans de nous, comme ceux de Maïs. Et pour cela, il faut que toi, tu parles. Ou si tu veux nous parler en utilisant l'instrument de ce soir, et que ta grâce soit sur nous pour nos nombreux péchés. Nous te demandons de bénir ta parole alors que nous allons la lire et prêcher. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, nous allons lire sans tarder dans Genèse 41. Nous avons parlé de Manassé mercredi. Il est logique que nous parlions d'Éphraïm. Toujours en appliquant sur nous. Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Chose que l'on remarque, si on regarde un peu nous-mêmes, nos enfants, on leur donne souvent des noms publics, on regarde un nom qui nous plaît dans la Bible, on regarde, mais dans le temps, ils donnaient le nom selon les circonstances. Bon, ça ne veut pas dire qu'en donnant des noms publics, c'est mauvais, c'est très bien, mais c'est pour dire que les noms que nous lisons dans les Écritures ont une signification bien particulière. Et ça arrivait aussi que Dieu donne des noms, comme à Jacob, il a appelé Israël. Selon la circonstance, il avait combattu, n'est-ce pas, avec l'ange, il a donné à Abraham le nom d'Abraham, un père d'une multitude, selon la promesse qu'il lui avait faite. Il a donné le nom à Isaac, il a donné des noms. Et nous donnons donc souvent les noms, soit les noms des parents, il y a des papas qui aiment bien que leur fils ait leur prénom ou quelque chose dans ce genre-là. Mais Juste pour dire que les prénoms que nous voyons ont une signification bien particulière. Et Joseph, nous avons vu ça, un mercredi, avait eu beaucoup de peine dans la première partie de sa vie, alors qu'il était le préféré de son père. En fait, tout devait se passer comme si il allait avoir une très bonne vie en tant que préféré de son père. Et Jacob avait beaucoup de biens quand il était rentré de chez son beau-père, de chez son oncle. Mais Joseph n'avait pas eu cette opportunité de vivre une vie paisible. Ses propres frères le haïssaient. N'est-ce pas? Dans Genèse 37, on a lu, hein, on peut le relire. Ses frères le haïssaient. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Propre frère, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Vous voyez, cette haine était progressive. Elle était de plus en plus forte. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Oui, il y a davantage à davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bon, il avait vraiment difficile, au point que lorsque l'occasion s'est présentée, ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Maintenant, il ne faut pas lire cela en triple vitesse, disant qu'on l'a vendu aux Ismaélites. Il faut savoir, il faut se rappeler qu'Ismaël était le frère de son grand-père, le grand-père de Joseph. C'est-à-dire qu'il était le frère d'Isaac. Ils étaient même pères. Autrement dit, c'était la famille. On le vend. Disons que Ismaël était son grand-oncle. Les Ismaélites étaient ses cousins. Ils auraient pu aussi avoir pitié de lui, mais non. Ils l'ont pris et ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ça devait être dur pour lui. Qu'on me vende aux Ismaélites qui sont des cousins, et eux, peut-être je vais m'en sortir chez eux. Et Ismaël était circoncis, hein, comme Isaac. Il avait été circoncis le huitième jour, n'est-ce pas, enfin, pas le huitième jour, lorsque Dieu avait décidé, qu'il leur avait demandé en signe de l'alliance, qu'il soit circoncis. Ismaël a été circoncis, Genèse 16, 15. Plutôt en Genèse 17, 25. Ismaël a enterré Abraham aux côtés d'Isaac, Genèse 25. Donc ce n'était pas si lointain que ça. Et ça devait être pénible pour Joseph de vivre ça. Verset 7, Genèse 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Socar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Kairoï. Donc, Isaac, en tant que père de Jacob, il était frère à Ismaël. Et Isaac étant le père de Jacob, qui est devenu Israël. Ayant subi tout ça, Il était en droit d'avoir des rancœurs. Comme ici, nous sommes des frères parce que nous avons tous un même père. Ça va? On est censé de nous aimer les uns les autres. En tant que frères, en tant que frères et sœurs, en tant que sœurs. Et cela, de toute façon, Jésus nous le demande. Ils disent, c'est ainsi qu'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Mais il arrive parfois des couacs entre frères et sœurs, entre sœurs. Il peut arriver des couacs, souvent, et le résultat des courses, c'est quoi? C'est que, bon, finalement, on claque des pieds, disant, est-ce que ça, c'est une assemblée de chrétiens? On voit ici des circoncis, comment cela se passait. Et même dans leur maison à eux, on voit comment ça s'est passé. Ces choses arrivent malheureusement, mais elles arrivent dans un but. Dieu veut nous forger un caractère. Quand nous allons dans une assemblée où tout est bien, tout est plat, ce n'est pas toujours bon. Il faut qu'il y ait parfois des secousses. Pour que nous puissions. Comment saurons-nous que nous avons de la patience si un frère ne nous met pas à bout? Ouais. Il faut être patient envers un frère, on va dire amen, mais le jour où quelqu'un nous pousse à bout, on éclate. Non. Dieu est en train de. Il veut que nous soyons semblables à Christ. Et quand vous regardez Christ, quasiment à tous les coins de rue, quand il marchait, les Juifs l'interpellaient, ils l'outrageaient. Jean donne ce témoignage, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, et cela, en fait, il était en droit d'avoir des rancœurs et de se poser des questions. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive alors que moi je n'ai rien fait de mal? Pourquoi est-ce que mes frères me haïssent tant? C'est pas moi qui ai demandé à mon père de me préférer à eux. Et toutes ces choses, c'est pas lui qui a demandé, mais cela arrivait. Il était en droit de se poser tout ça. Et nous avons vu, mercredi, que certainement, il s'est posé quand même ces questions. Parce que mercredi, nous avons vu. Il a donné le nom de Manassé, expliquant que Dieu lui avait fait oublier, n'est-ce pas, ces choses-là. Donc, il avait ça quelque part dans son cœur avant, n'eût été l'intervention de Dieu, il n'aurait pas oublié ça. Et cela donc a généré en lui beaucoup de peines, des peines au pluriel, et ces peines l'ont rendu stérile. Allez voir pourquoi je dis ça. Stérile spirituellement. Les afflictions à cause des afflictions subies. Ces peines, finalement, l'ont rendu esclave, spirituellement parlant. Les Ismaélites l'ont vendu en tant qu'esclave. Et quand on est stérile, c'est qu'on manque une des vertus de Pierre. Hein? Parce que les vertus qui sont dans Pierre, dans l'épître, hein, je ne dis pas dans l'homme, dans l'épître, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, il nous est dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça va? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Dans tout, il y a des bonnes choses. Dans tout, il y a des choses moins bonnes. Mais Dieu les fait concourir pour notre bien, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alors, cette connaissance, la vie, la piété, nous assure de sa part, lorsqu'on a toutes ces choses, Cela nous donne l'assurance. Ça nous assure que ça nous assure de recevoir les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu a faites. Il y a de grandes promesses, des promesses de guérison, de délivrance, de toutes sortes de choses, des promesses spirituelles, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, que nous soyons, comme dit Paul, de la race de Dieu. Oui ? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, ça va ? Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Vous voyez ? S'il est dit qu'elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles, c'est que tant que nous ne les avons pas, nous le sommes pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le connaître, c'est cela la vie éternelle. Et Dieu va lui faire oublier toutes les peines qu'il a eues. Et quand Dieu va lui faire oublier tout ça, nous devons, en tout cas, nous rendre compte, c'est ce que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui n'arrivent jamais à faire. Oublier, nous l'avons dit, oublier tout le mal qu'on nous a fait. Surtout si c'est quelqu'un de proche. Où j'ai déjà entendu des choses quand quelqu'un est déçu envers un autre, un frère, disant « je le prenais vraiment pour mon petit frère ». J'ai déjà entendu ça. Et maintenant, tu ne le prends plus, tu le prends pour qui ? Oui, c'est toujours ton frère. Hein, Dieu fait oublier dans un but. Alors, pour beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à oublier. Ça donne quoi comme résultat ? Ils ne progressent jamais spirituellement. Ils sont toujours, vous allez les voir, pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans, toujours butant sur les mêmes problèmes, n'avançant pas. Ou même si c'est quelqu'un qui a quitté l'Assemblée, vous entendez une histoire sans qu'on ne cite le nom, vous vous dites, ça, c'est un tel. On se souvient de quand il était là, il était comme ça. Et en fait, la personne n'oublie pas certaines choses, n'oublie pas certaines choses qu'il a reçues comme injustice dans l'Assemblée. Lui, il a pensé que c'était une injustice. Ce n'est pas une injustice, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui se passent, on ne s'en rend pas compte. Je vais juste donner un exemple. On a toujours cette habitude, d'ailleurs, il y a la caisse là-bas derrière. Déjà, au départ, il fut un temps où, quand malheureusement quelqu'un était frappé durement d'un deuil, on se cotisait. À l'époque, apparemment, les gens n'avaient pas les mêmes problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Apparemment, les problèmes était moins fort avant qu'aujourd'hui. Et on sortait des sommes importantes parfois qui allaient à une personne. Alors, l'erreur que nous commettions, nous, ici en tant que conducteurs, c'est que parfois, il y en a qui demandaient, ils aimaient qu'on leur dise combien était sorti. C'était une erreur. Parce que quand vous faisiez une collecte pour quelqu'un, il en sortait 1200 euros. La collecte suivante, si ça suit de 2 semaines, il en sort 300 euros, la personne est aigrie. La personne s'imagine que c'est l'Assemblée qui fait ça. Mais non, il faut comprendre que ton problème est survenu pendant que les autres se sont dépouillés à un moment donné et ils n'ont plus grand-chose. Et parfois, ça a tendance à se suivre. À se suivre, ça se suit tellement à une cadence telle que on n'arrive pas à suivre. Et beaucoup prennent cela comme une injustice. Ce n'est pas une injustice. On donne avec bon cœur. Maintenant, si on fait une collecte en ma faveur et qu'il en sort 10 euros, sincèrement, je viendrai vous dire que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu a jugé que je n'avais besoin que de ces 10 euros-là. Que je ne regarde pas parce qu'on a donné à Mathias 1350, que je commence à me lamenter parce qu'on a donné à Mathias 1350. Sont des choses, Dieu nous apprend. Et c'est la Bible qui le dit, ça a été lu il n'y a pas longtemps. C'est que quand votre frère reçoit, réjouissez-vous avec lui. Oui. Et ce sont des choses que Dieu nous apprend, où nous devons en arriver là. Ça va? Ce n'est pas du tout une injustice. Je dois parfois expliquer aux gens, ce n'est pas une injustice. Il faut savoir que les moyens ne sont pas élastiques. Parfois, certains en arrivent au bout de leurs moyens. Et c'est ainsi que c'est mal tombé. On ne pouvait pas prévoir. Alors, quand Joseph a oublié, c'est là que Joseph a progressé. Il a d'abord oublié pour pouvoir progresser après. Parce que il ne dit pas, ah, avec Manassé, Dieu me fait oublier. Non, non. Il dit, Dieu m'a fait oublier. C'est passé. Et non, il ne faut pas en arriver, comme dit la Bible, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Et il oublie toutes ses peines. Il donne le nom de Manassé. Maintenant qu'il a oublié toutes ses peines, on lui a donné une épouse. Il a un enfant. Il commence d'abord par ça. Vous pouvez commencer par Éphraïm. Il commence d'abord par remercier Dieu pour ce qu'il a fait en lui. Mais ce n'est pas fini. Et il dit, Dieu m'a rendu fécond. Ça va? Ce sera le titre. Dieu m'a rendu fécond. C'est ce que ça veut dire, Éphraïm. Manassé veut dire oublier. C'est Joseph qui est fécond. N'oubliez pas. Ce n'est pas Éphraïm. Ça va? Dit, lui l'a dit, Dieu m'a rendu fécond. Éphraïm, ça veut dire fécond, fructueux, qui donne beaucoup de fruits. Mais c'est Joseph, en fait, qui a été rendu fécond. Et il dit ceci, je vais revenir dans Genèse 41, au verset 52. Et regardez bien, il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un frère, je crois que c'était frère Danny Matanga, qui avait prêché ici, disant, la solution de votre problème est dans le problème. Parce que soulagement à votre affliction, c'est dans l'affliction. Ça ne sert à rien de fuir l'affliction. Ne demandez pas à être affligé. Ne demandez pas à Dieu à être affligé. Mais s'il y a de l'affliction sur votre chemin du devoir, demandez à Dieu la grâce de passer au travers. C'est Dieu qui est en train de vous former. Parfois ça écorche, parfois ça n'écorche pas, mais ça blesse quand même un peu. Mais c'est selon ce que Dieu veut faire dans chacun de nous. Et chacun de nous est particulier. Jésus a dit que Celui qui veut le suivre, celui qui veut être son disciple, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire que chacun a sa croix. Tu t'amènes à ça. Nous n'avons pas tous la même croix. Chacun a sa croix à lui, qui lui est particulière. Dans Josué, attendez, je n'ai pas noté, mais je vais voir le chapitre. C'est Josué, chapitre 13. Verset 2, on peut commencer là. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéscuriens. Alors, Dieu dit à Josué, il faut prendre le territoire que je vous ai donné. Tu es devenu vieux et il reste encore beaucoup à soumettre. Vous voyez, il a commencé jeune, Josué, plus ou moins. Et il est devenu vieux, il n'a pas terminé à prendre possession de ce que Dieu lui a donné. Et c'est pareil pour nous tous. Et dans les villes qui vont être attribuées à chaque tribu, vous allez voir que chaque tribu, n'est-ce pas, a ses vallées et ses montagnes. Les vallées de Juda ne sont pas les mêmes que les vallées de Ruben. Ça va? Chaque tribu, chaque peuple a pour lui, en tout cas, selon ce que Dieu lui a attribué comme montagne et comme vallée. Alors, ça veut dire que chacun a ses combats. Chacun a ses combats. Chacun a ses difficultés. Et il nous est demandé, au moment d'aller prendre possession du territoire de l'autre côté du Jourdain, Josué demande à tout le peuple de traverser, même ceux qui ont reçu en deçà du Jourdain, ceux qui ont reçu leur territoire, Josué leur dit, ne restez pas ici parce que vous avez reçu votre lot, maintenant allez combattre avec vos frères. Ce qui signifie que quand nous prenons possession de ce que Dieu nous donne ici dans l'Église, dans l'Assemblée locale par exemple, nous devons nous soutenir les uns les autres. Ce n'est pas parce que moi j'ai déjà reçu telle chose que je vais m'asseoir et vous regarder et dire que bon, maintenant je vais attendre qu'eux aussi reçoivent. Non, je dois combattre avec vous. Si j'ai prié, si j'ai invoqué le Seigneur, si j'ai demandé au Seigneur de recevoir le baptême du Saint-Esprit et que je l'ai reçu, maintenant, je veux dire, ben, vous n'avez qu'à prier. Non, je dois prier avec vous jusqu'à ce que vous puissiez l'avoir également. Et ainsi que nous soyons une assemblée remplie du Saint-Esprit. C'est ça que nous recherchons. Et bon, qui ça? Joseph, quand il a pu oublier le tout, eh bien, Dieu a fait de sorte que Joseph devienne fécond. Et en oubliant le tout, il était là, il n'a pas profité de sa situation pour prendre vengeance de tous ces gens qui lui ont fait du mal. Il aurait pu le faire. Beaucoup ne progressent pas, ne reçoivent pas de promotion parce que Dieu sait qu'ils ont un esprit de vengeance. Vous voyez ? Si Dieu sait que vous allez vous venger, Dieu ne vous le donnera pas. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à moi la vengeance. Vous voyez ? Des choses que nous ne recevons pas de Dieu, que nous avons demandé parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir cela. Jour où nous sommes prêts à recevoir, je vous ai déjà donné l'exemple de lorsque le croyant prononcera la parole et la chose s'accomplira. Ça fait longtemps que cette chose devrait déjà arriver. Le monde, la création tout entière attend ça. Oui, la création tout entière attend ça, soupire après ça. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Hein? Quand vous entendez des frères discuter, il y en a qui commencent à lancer à l'autre: fais attention parce que je vais dire un ainsi dit le Seigneur contre toi. Ben, c'est sûr que Dieu ne le laissera pas dire un ainsi dit le Seigneur. Déjà, il a empêché Balaam de maudire Israël. Il va aussi vous empêcher de dire n'importe quoi sur votre frère. Ça va? Il ne vous donnera pas. Alors, dans Être fructueux, dans la parabole du semeur, Jésus nous dit ce qui rend une terre stérile. Qu'est-ce qui fait qu'une terre dans laquelle on sème, on met de la semence, qu'est-ce qui fait que cette terre est stérile? Matthieu 13. Parabole du semeur, frère Albert vous en a parlé ici. En Matthieu 13, on va pas lire toute la parabole. Au verset 4, un semeur sortit pour semer. Ça va? Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. D'abord, le long du chemin, le chemin n'a pas été préparé à recevoir la semence. Le chemin a été mis là pour qu'on puisse y marcher. Ça va? Alors, ce n'était pas le bon endroit pour que la semence y tombe. La semence qui tombera là-dedans, eh ben, cette semence, elle est perdue. Les oiseaux viendront et la mangeront. Alors, une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Ça, c'est là où je voulais en arriver. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Il y avait de la terre, mais beaucoup de pierres. La semence, qu'est-ce qui s'est passé? La semence a levé. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Oui. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ça va? Alors maintenant, nous allons voir cette explication, l'explication que le Seigneur lui-même donne de cet endroit pierreux. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Une tribulation, vous pensez bien que Joseph en a trouvé des tribulations. Persécution, vous pensez bien que Joseph a trouvé des persécutions. Et pour ce qui est des tribulations, Jésus nous le dit dans Jean 16, verset 33. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et toutes les peines qu'il a subies sont autant de cailloux qui se trouvaient sur le terrain. Toutes ces peines-là, toutes ces pensées qu'il avait, sont autant de cailloux qui empêchaient peut-être la parole de Dieu que lui avait enseignée Jacob, n'est-ce pas? Puisse y trouver racine, il fallait que ces cailloux soient enlevés. Et Dieu les a enlevés. Et quand Dieu a enlevé cela, il n'y a que Dieu qui peut enlever ça. Comment oublier que mes propres frères m'ont mis dans une citerne? Comment oublier que mes propres frères m'ont vendu aux Ismaélites? C'est inoubliable. Mais quand il en arrive à oublier et qu'il arrive, il est désormais devenu une bonne terre, c'est-à-dire celui, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est pas grave que ça soit 30, que ça soit 50. J'ai regardé un peu dans les dénombrements. Éphraïm, lorsque, avant de traverser, lorsqu'il y a eu le premier dénombrement dans Genèse chapitre 1er, vous verrez qu'Éphraïm, ils étaient quand même nombreux, ils étaient 40 500. Mais ils n'étaient pas les plus nombreux. Il y en avait d'autres qui étaient plus nombreux qu'eux. Ils n'étaient pas les moins nombreux non plus, mais Éphraïm était plus nombreux que Manassé. Ça, c'est un fait. Mais en fait, la fécondité en soi, c'est la fécondité de leur père, de pouvoir donner du fruit. Et dans Éphraïm, il y a eu des grands hommes. Des Éphraïmites, il y en a eu beaucoup. Des hommes de Dieu. Alors, Dieu a enlevé cela. Aujourd'hui, si nous appliquons cela aujourd'hui, Joseph, c'est un type de Christ. Joseph, c'est Jésus-Christ. Notre Joseph à nous, aujourd'hui. L'autre, il est mort. Ce Jésus-Christ, il est ressuscité. C'est notre Joseph à nous. Il a été affligé sur la terre. Il a été méprisé. Il a été outragé. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a subi le châtiment qui nous était destiné. Vous savez, quand vous avez plusieurs enfants, c'est déjà arrivé que des parents se trompent. Vous en avez trois, vous en avez quatre, vous en avez cinq, six. Il y en a un qui fait... Il commet une bêtise, vous pensez que c'est un autre qui l'a fait, parce que c'est peut-être un habitué de bêtises, vous pensez que c'est lui qui l'a fait alors que ce n'est pas lui, sans même demander, c'est une erreur parentale, sans même demander, paf, on frappe l'autre alors que ce n'est pas lui. Vous savez, cette gifle-là, vous pouvez l'oublier, mais l'enfant ne l'oubliera jamais. Il dira, un jour, maman ou papa m'a frappé, alors que ce n'était même pas moi qui l'avais fait. C'était Jules qui l'avait fait. Mais dire, bon, si maman l'a fait, maintenant, quand Dieu vient enlever ce caillou-là, Dieu va vous montrer en fait que votre maman vous aime. Elle vous aimait, même en vous donnant cette gifle-là. Pour elle, elle pensait que la gifle allait... Bon, elle pensait sincèrement que c'était vous. Une maman peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne va pas frapper quelqu'un à la place d'un autre. Il a frappé Christ, sachant très bien que ce n'était pas lui, mais c'était à dessein, parce qu'il devait le frapper. Il ne s'est pas trompé, disant que, bon, Christ, je ne vais pas le frapper, je vais plutôt frapper les autres, les pécheurs. Non, non, il a frappé lui pour qu'il ne nous frappe pas. Amen. C'était dans ce but-là. Et c'est là où j'essaie souvent de faire comprendre à ceux de la famille qui sont témoins de Jéhovah, pour leur dire, vous savez, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un dans le ciel, ne pouvait pas dire à Gabriel, vas-y là-bas, on va te taper, on va te cracher dessus, tout cela, mais tout ça pour leur montrer que moi je les aime. Mais non! Si Dieu veut montrer qu'il nous aime, c'est lui-même qui va le faire. Oui, c'est une chose difficile à comprendre. Il a subi beaucoup de peine chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Par exemple, des peines que lui a fait subir Paul. Actes chapitre 9. Et n'oubliez pas, ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à lui que vous le faites. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Paul, hein. Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, Paul peut dire que c'est aux disciples du Seigneur de se plaindre, disant qu'il est en train de les tuer, donc de les menacer. Donc, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, sans pitié, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur s'identifie à son peuple. Mais non, Seigneur, ce n'est pas toi que je persécute ceux-là qui ont accepté la nouvelle doctrine, les disciples-là. Il dit, mais justement, c'est moi. Et Dieu lui dit, Seigneur lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le même Paul qui a persécuté l'Église, et lui-même, d'après son témoignage, il a ravagé l'Église. Le même Paul, Dieu va le prendre pour aller annoncer la parole. Quelle parole? Cette parole qui, à ceux qui l'ont reçue, leur a été donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, Dieu va avoir des enfants au travers de la parole que Paul va annoncer. Pas seulement Paul, tous les disciples qui ont reçu cet ordre. On va le lire dans Matthieu 28. Allez, faites des disciples. Tous ceux-là, ben, ils vont apporter la parole. Par eux, Dieu va avoir des enfants. Des enfants des Éphraïm. L'Église, comment dirais-je, Dieu, Jésus-Christ est fécond par là. Comme ça, de par là, il a, n'ayant pas toutes ces choses, tout ce qu'on lui a fait en lui, n'ayant pas cela en lui, prêt à pardonner, prêt à vous prendre, ça lui donne des enfants, quoi, si je peux dire ainsi. De nombreux enfants. Et il est très fécond. Il est très fécond, Jésus-Christ. Il est très fertile, Jésus-Christ. Et il en a plein. Au verset 13, dans Acte 9, le Seigneur dit, d'abord Ananias dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme, Paul, a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et par cela, nous avons le témoignage de par le ministère de Paul, beaucoup sont venus à Christ. Oui. Et ce qui fait qu'il a été rendu semblable à Christ, en véritable type de Christ, Joseph. N'est-ce pas? Le type parfait, comme dit le frère. Tout disciple, maintenant, tout disciple du Seigneur est appelé à devenir un messiète. Pas moi qui le dis, c'est le prophète de cet âge. Nous sommes tous appelés à devenir des messiètes. Nous sommes tous appelés à devenir des Joseph, des Christ. Christ, ça veut dire oin. Des oins du Seigneur. Malgré le fait que dans ce monde, nous le chantons, d'abord ce monde n'est pas fait pour nous, malgré que dans ce monde, beaucoup de tribulations nous attendent. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Malgré les tribulations, eh ben, nous ne devons pas rester stériles. Nous avons une mission bien précise qu'on nous a donnée. Et cette mission ne doit pas nous conduire à un moment donné à en avoir ras-le-bol et dire, ben, ils n'ont qu'à se perdre. Non. Il est venu pour sauver. Hein, vous vous souvenez, je crois que c'est dans Luc 9, là où, dans le bourg des Samaritains, aux alentours du verset 52, là dans ce petit village-là, où on lui refuse l'entrée, méchamment, au lieu de leur en vouloir, lui, il ne leur en veut pas. Il n'y a pas de caillou en lui. Satan l'a tenté pour essayer de mettre justement des cailloux pour que ces gens-là ne croient pas, n'est-ce pas? Mais par contre, Jean et Pierre et Jacques, ils ont commencé à dire, tu veux qu'on commande le feu du ciel pour qu'il soit consumé? Jésus les a regardés et dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Je suis venu dans le monde pour sauver et non pour perdre. Et c'est cela que Dieu attend de nous ce soir. Certaines afflictions nous arrivent justement dans ce but-là. Que Dieu veut qu'au travers de notre témoignage. Parce que si nous sommes riches, comme le monde entend par là, être riche, vous savez, l'assemblée sera remplie parce que les gens sont cupides. Ils aiment l'argent, ils aiment ces choses-là, et ils viendront pas pour chercher Dieu, ils viendront chercher l'argent. Mais l'amour va au-delà de cela, au-delà des rémunérations. N'oublions pas que le pauvre Lazare, il est mort pauvre. Le Seigneur n'en a pas fait un riche, mais Abraham dit au riche, il lui dit, écoute, non, Lazare a eu ses maux dans le monde. Il est ici consolé. La consolation, elle viendra. Joseph a eu sa consolation. Et dans Matthieu 28, Jésus nous dit ceci juste avant de partir. Verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, cette mission, c'est une déclaration de guerre contre les démons. Quand les démons savent que vous êtes prêts à aller par le monde pour faire des disciples, c'est sûr qu'il vous mettra des bâtons dans les roues. Et Joseph en était arrivé là, il fallait que Dieu montre au fils d'Israël, de Jacob donc, il fallait que Dieu montre au fils de Jacob que le Dieu de leur père, Jacob, que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, était le seul vrai Dieu. Et il agissait au travers de Joseph. S'il n'y avait pas ces choses-là, il n'aurait pas bien connu le Dieu d'Abraham. Vous savez? C'est grâce à cela que ils ont fini par voir que leur Dieu était le vrai Dieu. Parce que si la famine était tombée partout dans le monde et pas en Israël, les autres auraient trouvé que c'était tout à fait normal. Non. Mais il y a aussi autre chose que Dieu voulait montrer, c'est montrer aussi qu'il est amour. Qu'il pardonne. Il est miséricordieux. Ils voulaient montrer tout cela, et à tel point qu'eux-mêmes, ils étaient surpris de voir que leurs frères, ils étaient conscients du mal qu'ils lui ont fait, mais ils étaient surpris de la manière dont il les a accueillis. Et lui, il leur dit, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Il m'a envoyé devant vous afin que vous ne soyez pas dans la famine. C'est montrer que Dieu pense à vous. Et toutes les afflictions qu'il a reçues, il les a reçues dans un pays, le pays d'affliction. Et c'est dans le pays d'affliction que Dieu l'a délivré, Dieu lui a fait oublier. C'est dans le pays d'affliction qu'il a prospéré. Ça va? Et beaucoup aujourd'hui, je reviens là-dessus, ne prospèrent pas à cause de ça. À cause de ces vieilles rancunes. Je vous ai parlé de ces tiroirs qu'on tirait, où on sortait des tas de lettres, pas une, hein, des tas de lettres. Ça a été écrit en telle date, ça a été écrit en telle date, ça a été écrit en telle date, où, bon, finalement, la personne n'avance pas. Et pourtant, c'est une personne qui aime Dieu. La personne va vous avaler des brochures, la personne va vous avaler la Bible, elle va vous avaler des cassettes, toutes ces choses possibles, se nourrit, mais la personne n'avance pas parce que le cœur est toujours chargé. Et en tant que chrétien, nous n'avons pas à être chargés. Et si nous devenons des Joseph, si nous sommes des Joseph, parce que nous avons des tribulations dans le monde, parce que nous avons des afflictions. Beaucoup d'afflictions nous atteignent, mais le Seigneur nous en délivre toujours, n'est-ce pas? Eh bien, que ces afflictions-là ne viennent pas perturber notre fécondité. Parce que nous-mêmes, nous devons être féconds également. Nous allons terminer par là. Jésus dit dans Jean 15, c'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que parfois on essaie de nous faire croire. Non, la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie de sacrifice. Dans Jean 15, Jésus dit ceci. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, donc qui est stérile, un sarment, c'est la branche. Ça va? Tout sarment qui est en moi, n'est-ce pas, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors, si vous voulez, on peut, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on peut faire le dessin. Ça, c'est le cep. Alors, il y a les sarments. Et les sarments, vous n'allez pas avoir les fruits sur le cep. Hein. Là, il y a la sève qui coule. D'accord? Mais les fruits, on va les avoir sur les branches. D'accord? Alors, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. C'est pas grave. Il sera retranché. Et Dieu le fait. Donc, en tant que sarment, nous devons porter du fruit. Et du bon fruit. Alors, nous continuons. Il émonde afin qu'il porte, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, ben, ça veut dire que. Il les taille, hein. Voilà, si vous voulez, il taille de manière à ce que la vigne est souvent taillée. Hein. Pas souvent, on doit la tailler. Et même les arbres fruitiers, les pommiers et tout, il faut les tailler, c'est bien. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Alors, il émonde et la taille favorise les fruits, la production des fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, évidemment, s'il n'est pas attaché au cep, il ne portera pas de fruit. Il doit être attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne le demeurez en, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on est démuni. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça va? Comme nous en avons souri la fois passée, je crois que c'était la semaine passée ou il y a quelques jours, n'est-ce pas? Hein? Pour raconter l'histoire de mon pommier. Hein? Hein, le pommier l'année passée, pour une fois qu'il me donnait du fruit, jusque-là, il n'en donnait pas. Il m'a donné un fruit, une pomme. Non, ça, c'est pas. On s'est dit, l'année prochaine, s'il me donne encore une pomme, une seule pomme, ben, je crois que je devrais changer de pommier. Ça va? Ou alors, je le garde là juste pour la garniture. Mais sinon, si j'attends des pommes de ce pommier, s'il s'amuse à ne me donner qu'une pomme par saison, ce n'est pas bon. Nous devons porter beaucoup de fruits. Maintenant, s'il y a 1000 pommes sur le pommier, je suis content. S'il y en a 50, je suis toujours content également. Il faut porter du fruit, mais pas seulement. Hein. Mais Jésus dit aussi, celui qui n'a pas, on lui enlève même ce qui n'a pas. Ouais. Tandis, celui qui a, eh ben, on lui donnera, n'est-ce pas? C'est ainsi. Et ne soyez pas ces chrétiens stériles qui ne portent jamais de fruits. Et pour porter de fruits, il faut être fécond. Pour être fécond, il faut que les cailloux soient enlevés de vos cœurs. Et les cailloux, pour être enlevés de vos cœurs, ce n'est pas à vous de dire, bon, Seigneur, à partir de maintenant, je serai patient. Ça ne marchera pas. Dieu lui-même vous donnera la patience. J'aime bien prendre cet exemple de la patience parce que le verset n'est jamais loin pour vous montrer comment Dieu donne la patience. Jacques chapitre 1er. Non, on peut prendre les autres hein, pour avoir la connaissance, pour avoir la tempérance, comment Dieu le fait. Mais prenons patience, le verset n'est pas loin. Connais par cœur. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, hein, pas une fausse joie. Frère, je suis dans la joie et puis je souffre. Non. Soyez dans la joie. De joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quand vous demandez la patience à Dieu, Dieu va vous éprouver. Et il va éprouver votre foi. Combien n'ont pas perdu la foi, combien n'ont pas fait naufrage par rapport à la foi, tout simplement parce qu'ils ont demandé quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Mais j'ai prié, tu as prié avec foi, j'ai prié avec foi, j'ai pas reçu. J'ai prié pour que je réussisse, je rate tout le temps, je rate tout le temps. Ben, rends gloire à Dieu. Mais il y en a qui tournent les talons, qui disent, ah non, Dieu, c'est fini. Il ne m'a pas donné telle chose que je lui ai demandé. C'est fini. Non, Dieu va vous éprouver. Moi, je ne sais pas combien de temps Joseph a fait en prison, mais il a dû faire longtemps. Parce que Benjamin a eu le temps de naître, n'est-ce pas, pendant son absence, non seulement de naître, Benjamin a eu le temps de grandir. Il est resté longtemps loin de chez eux. Et il n'a plus jamais, il n'a pas revu sa mère, hein, parce que sa mère est décédé, je crois, au moment de l'accouchement de Benjamin. Si, alors, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà comment Dieu met la patience en vous. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et on a besoin de la patience afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Alors, la stature de l'homme parfait, vous la connaissez, sans la patience, il n'y a pas de perfection. Et si vous êtes patient, vous atteindrez la perfection. Et votre fruit, le fruit que vous produirez, ben c'est le fruit qui est donné dans Galates chapitre 5. C'est le fruit que Dieu attend de vous et de moi. Pour être productif à ça, vous savez, c'est le fruit de l'esprit. Et l'esprit, quand il vient et qu'il voit des cailloux en moi, il s'en va. Il n'aime pas, on n'a pas le temps, sinon on peut le lire dans Éphésiens, il n'aime pas l'amertume, la rancune, il n'aime pas les animosités, il n'aime pas ces choses-là. Comme dit le frère Walam, le Saint-Esprit est très timide. Ça va? Ah. Donc, dans Galates 5, Dieu veut que vous ayez ce fruit-là, ce fruit-là, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça va? C'est pas fini, hein? La phrase n'est pas finie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, il ne faut pas s'arrêter là. Virgule. La joie. Ça va? Et c'est toujours pas fini. C'est toujours le même fruit. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Virgule. La paix. Amen. Virgule. La patience. Virgule. La bonté. La bienveillance. La foi. La douceur, la maîtrise de soi, tout ça, c'est dans le fruit. Et le fruit peut être qualifié de bon fruit. Et un bon arbre que vous êtes ne doit produire que de bons fruits. Amen. Et pour produire de bons fruits, ben, il faut passer par où Joseph est passé. Joseph a été rendu un type parfait de Christ par les choses qu'il a souffertes. Vous aussi, par les choses que vous allez souffrir, c'est ainsi que Christ sera formé en vous. Ces épreuves viendront jusqu'à ce qu'il soit formé en vous. Je vous bénisse. Nous allons prier. On n'oublie pas, Éphraïm est arrivé après Manassé. La fécondité est arrivée après qu'il ait oublié. Et dans le pays de son affliction. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, cette œuvre que tu as commencée en nous, certainement, l'apôtre dit qu'il est persuadé que tu la achèveras. Et c'est toi qui nous mènes à la perfection. C'est toi qui nous mets toutes ces vertus en nous. Toutes ces choses qui sont en nous. Et c'est aussi toi qui enlèves tous ces cailloux qui doivent être enlevés. Car le semeur, c'est toi. C'est toi qui prépares la terre avant de semer. Et pour pouvoir y semer, y mettre la semence, oh, tu dois travailler cette terre. Tu dois travailler la terre de telle manière que la terre soit propice à recevoir la semence qui est apportée. Alors, certainement, la semence produira de la même espèce, produira exactement de la même chose. Si la terre est bonne, si la terre est féconde, c'est une loi de Dieu, la semence ne peut que produire ce dont pourquoi elle a été créée. Nous te bénissons, nous te remercions. Comme cette semence est ta parole, mon Dieu, elle ne peut produire que ce dont pourquoi elle a été prononcée. Sois béni, Père. Nous te remercions ce soir pour l'occasion que nous avons eue de nous rassembler. Oh, prête-nous également, pendant que nous voulons nous examiner nous-mêmes, en attendant la Sainte Cène de dimanche, oh Dieu, nous voulons la prendre avec simplicité de cœur Et nous voulons également faire de sorte que nous ne prenions pas de manière à ce que nous puissions nous être condamnés, mais nous voulons vraiment la prendre en comme une véritable communion entre nous. Nous te remettons déjà cela entre tes mains et nous te demandons de nous raccompagner dans nos maisons. Si tu tardes à venir, que tu pourvoies et que nous puissions nous voir ce dimanche. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.